Deuxième chapitre. La pointe Saint-Mathieu. À l'extrémité d'une plaine vaste et aride, morcelée à l'infini par de petits murs en pierre sèche, imaginez des falaises de quartz et de granit, hautes de 100 pieds environ, tantôt escarpées et toutes droites, tantôt creusées en grottes ou poussant des pointes en avant dans la mer. À l'horizon, des îlots qui ne sont que des écueils, autour desquels les vagues sautent et écument. Sur leur chemin, d'autres roches qui les irritent et qu'elles franchissent en se précipitant. La marée est pleine, le vent souffle de l'ouest. Il faut voir comme les flots s'élèvent, se gonflent, s'élancent à la course comme un escadron qui charge. À la rencontre des falaises et des roches, la vague se brise, rebondit en gerbe, tonne en se déroulant sur la plage, fait coups de canon dans les grottes où elle s'enfonce, se ramasse et se dresse pour pénétrer dans les anses, où elle se développe avec lenteur et d'où elle se retire rapidement en grinçant sur les galets. À nos pieds, à droite, à gauche, partout cette écume qui jaillit, ces flots qui s'avancent, se succèdent et se combattent, partout ces bruits éclatants ou sourds qui se prolongent et retentissent dans les cavernes. Spectacle admirable et terrible que chaque pas renouvelle, dont les scènes varient à chaque coup d'œil et qui vous retient debout sur une pointe de roc dans une longue et immobile contemplation. Écoutons maintenant la légende. Vers le milieu du 6e siècle, une flotte de navires léonois, qui estoient allés trafiquer en Égypte, trouva moyen d'enlever subtilement le chef du glorieux apôtre et évangéliste saint Matthieu, lequel ils emportèrent en Bretagne. Ayant passé le ras de Fontenay sans danger, comme il voulut doubler le cap de Penarbed, l'amiral qui portoit la sainte relique heurta de roideur un grand escueil qui paroissa à fleur d'eau. Alors ceux qui estoient dedans crièrent miséricorde, pensant être tous perdus. Mais, chose merveilleuse, le roc se fendit en deux, donnant libre passage au vaisseau qui estoit chargé d'un trésor si précieux, lequel ils mirent à terre à la pointe du dit cap, et allèrent rader au havre du Conquet qui est là auprès. Saint Tanguy voulut édifier un monastère au même endroit, auquel le chef du saint apôtre avoit été posé, lorsqu'on le descendit du navire, tout sur la pointe et dernière extrémité du cap. Mais plusieurs jugèrent ce lieu incommode pour être sur le bord de l'océan et par conséquent exposé au vent et sujet aux descentes des corsaires, et estoient d'avis de le bastir plus avant en terre ferme, à 500 ou 600 pas de là. Saint Tanguy se laissa aller à leur opinion, fit charroyer les matériaux en ce lieu et ouvrir des fondements. Mais Dieu montra par un miracle évident qu'il voulut que ce monastère fût édifié au lieu que le saint avoit premièrement choisi. Car quand ils commencèrent à travailler au maçonnage, ce qu'ils avoient fait en un jour, ils le trouvoient le lendemain miraculeusement transporté au premier lieu. Ce qu'estant arrivé plusieurs fois, ils continuèrent l'édifice au dit lieu, avec telle diligence qu'en peu de temps l'édifice fut accompli. Ce sont les restes de ce monastère et de cette église, pillés et ravagés tour à tour par les Normands, les Anglais, les protestants et les pirates, rebâtis dans le cours du 13e siècle, dévastés encore par les révolutions, que nous avons sous les yeux. J'ai vu des églises en ruine, j'ai vu entre autres celle de l'abbaye de Jumièges. Mais la verdure égaye ses frises, le lierre monte sur les flancs de ses tours et s'y suspend en feston. Les sapins s'élèvent comme des fûts de colonnes pour dessiner l'abside du cœur. C'est une ruine, mais non pas comme ici, une ruine désolée. Ces murailles noircies par la pluie, ces faisceaux de colonnes qui n'atteignent pas leurs chapiteaux, ces piliers que l'arcade ogivale rejoint encore, mais qui ne porte plus ni les galeries supérieures, ni les voûtes. Ces dalles éparses, çà et là, ou remplacées par une terre nue où ne pousse pas un brin d'herbe. tout trahit l'abandon, l'indifférence et l'oubli. Des temps anciens, nous ne retrouvons que le phare. Je veux dire un phare nouveau, sous tous les rapports, bien supérieur à l'ancien, dit un itinéraire, et je l'en crois sans peine. Mais la maison de la prière, qu'en a-t-on fait? Elle ne subsiste dans son admirable situation, et avec le grand aspect de ses débris, que pour attester les profanations d'autrefois et l'incurie d'aujourd'hui. Est-il possible que dans notre âge d'intelligentes restaurations artistiques, en Bretagne, sur cette terre de foi, dans cette position unique, à l'extrémité de la France, au-dessus de ces roches écumantes et funestes, il ne se soit pas rencontré d'homme assez généreux pour oser rebâtir ces ruines et les rendre à la foi et à l'art? Quand les Marseillais ont choisi la pointe la plus élevée de l'une des collines qui enserrent leur ville pour le riche sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, tandis que l'autre colline portait leur cathédrale, comment cette église de Saint-Mathieu, dernière sentinelle de la France chrétienne sur l'océan, a-t-elle été abandonnée du culte et dépouillée de sa croix? Imagine-t-on que cette belle église restaurée puisse déparer le phare qui la voisine, l'horizon qu'elle regarde et les terribles scènes qui l'entourent? À quelques pas de l'église, on voit des pans de murs qui ont dû appartenir au monastère ou au fort, une source d'eau qui jaillit dans le rocher à 10 mètres de la mer, 5 ou 6 maisons de misérable apparence. À considérer ces toits de chaume, ces pierres mal jointes, ces murs à hauteur d'appui recouverts de fientes de vaches qui sèchent et qui deviendront des mottes pour brûler, ces monceaux d'herbes marines qu'on prendrait indifféremment pour des tas de fumier ou de chiffon, je me rappelais un village de la Nord-Hollande, Kitchvin, si je ne me trompe, enseveli dans les sables flottants qui encombrent la pointe du Helder, véritable image de pauvreté et de désolation. Il paraît que je me trompais. Les populations de Saint-Mathieu sont loin d'être sans ressources, et c'est la mer qui les leur fournit. Dans ces terres d'apparence stérile croissent des blés très estimés. Les moutons qui broutent ces maigres touffes de gazon jauni et desséché fournissent les plus savoureux gigots. Enfin, les algues marines se vendent comme engrais ou sont portées à une grande usine du Conquet où l'on en fabrique de la soude, de l'iode et du brome. La mer, violemment agitée hier, donnait aujourd'hui une récolte abondante. Femmes, hommes, enfants, armés de tridents recourbés en râteaux, se juchaient sur les rochers ou se rassemblaient dans les anses. En voici 50 réunis sur un seul point et tranquillement appuyés sur le manche de leur outil. Une grosse vague à court, noire et lourde, c'est le varech, l'algue ou le goémon, comme vous voudrez l'appeler. Tous se précipitent, s'avancent contre la vague, s'y jettent et plongent leurs tridents, qu'ils retirent aussitôt chargés de dépouilles. L'herbe s'élève en tas. Avec les fourches, on la hisse sur les charrettes que des chevaux vigoureux traînent péniblement dans les chemins roides et rocheux. Ils débouchent sur le plateau où d'autres ouvriers les déchargent. La plaine est ainsi tapissée de goémons en grappe, en touffes feuillues, en larges rubans brodés, en longs fils sans fin qui sèchent au vent et au soleil. Dans ces jours de récolte, qui suivent d'ordinaire les jours de grande marée ou d'orage, ces plateaux déserts s'animent, c'est la fortune qui les visite. En revenant de la pointe Saint-Mathieu, les yeux sont rassasiés de magnificence, les oreilles de mugissements, l'âme de grandes émotions. On s'éloigne un peu de la mer, on rate le pas, il faut se dérober par la fuite à ces spectacles. Si l'on se retourne, l'admiration vous cloue en place et va vous changer en statue. L'esprit se recueille, le cœur s'élève, et pour se maintenir en haut, il n'a besoin ni d'imagination, ni d'effort. Il lui suffit de se souvenir.